Bonjour à tous. Nous consacrons cette dernière séance à Lumière et Naïve Hirondelle avec Marie, que vous connaissez bien, et Michel Corvin, que vous ne connaissez pas moins, qui est peut-être le meilleur spécialiste du théâtre contemporain actuellement, professeur émérite, et bien c'est de la Sorbonne Nouvelle, et qui a fait pour Folio Théâtre l'édition de Naïve Hirondelle. Michel, est-ce que je peux vous demander de nous représenter du billard aujourd'hui et aussi la figure qu'il a pu être autrefois?
Du billard aujourd'hui, on peut dire qu'il est en train de renaître. Du billard a été longtemps oublié, il a été relancé en 2004 par toute une série de représentations, sympathiques mais pas toujours tout à fait abouties, au Théâtre du Rond-Point. Et aujourd'hui, on se rend compte que Dubillard, c'est bien quelqu'un qui déborde largement au-delà du théâtre. C'est un poète, c'est un essayiste, c'est un philosophe. Et tout ça, on l'a découvert depuis assez peu de temps, depuis l'édition des Carnets en marge. Un énorme pavé, en 1998, extrêmement riche, non seulement pour la connaissance de la personne Dubillard, mais pour la connaissance de son esthétique. Et là, on découvre qu'il a une esthétique plus qu'une philosophie même, une esthétique qui est tout à fait neuve à son époque, et c'est pourquoi à son époque, on l'a finalement remis dans le rang, et on a dit, il y a un article de journal de Marc Capru qui dit Naïve Hirondelle, 10 ans trop tard. Or, c'est pas 10 ans trop tard, c'est 60 ans d'avance. 60 ans d'avance, pourquoi? Parce qu'on écrit aujourd'hui à peu près le même théâtre, c'est-à-dire le théâtre sans fable. Le théâtre sans histoire, le théâtre d'un récit de vie. Et ça se fait aussi bien avec John Foss qu'avec le japonais Horizo Hirata, qu'avec le français Philippe Ken. Des choses qui nous donnent l'impression d'être insignifiantes. Et c'est cet insignifiant-là qu'il a mis en œuvre. Et naturellement, comme on a voulu le ramener à Beckett, à Ionesco, on l'a dit, oui, mais c'est un épigone, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais ça n'était pas un épigone, c'était au contraire un précurseur. Donc ça, c'est très important pour moi, pour qu'on puisse vraiment relancer du billard. Et on va faire prochainement un grand colloque sur lui, en avril 2015. Et je pense que là, on ouvrira de nouvelles portes. Ceci dit, il faut peut-être parler de la pièce.
Oui, mais avant, on rappellera que c'est très tôt que du billard commence à écrire et à songer au théâtre. Dès le début, la fin des années 40 ou le début des années 50. Et on rappellera qu'avant même de se faire connaître à la radio par les extraordinaires sketchs de Grégoire et Amédée, qui commencent en 1953 et durent 2 ans, et déjà des gens comme moi étaient suspendus au poste de radio, où il dialoguait avec
Philippe de Cherizet.
Voilà, Philippe de Cherizet, qui lui a été décorateur, extraordinairement acteur.
Plasticien, oui.
Et c'est ça qu'il a fait connaître du grand public. Avant même que ce public ne sache qu'il écrivait ou songeait à écrire des pièces.
C'est assez amusant parce qu'il y a un article d'hommage de Obaldia quand on a fait ce numéro extrêmement important de la revue d'esthétique sur lui, en 1998, où il raconte sa rencontre, Obaldia raconte sa rencontre avec Dubillard et s'aperçoit que c'est le même que Grégoire, il ne le savait pas. Donc il y avait une double identité. Mais il y a aussi une dimension du billard qu'il ne faut pas oublier, qui était la plus célèbre, c'est l'acteur. Il a beaucoup joué dans les pièces des autres avant de créer ses propres pièces. Donc il était connu à la fois comme auteur radiophonique, plutôt dans le genre des sketchs, des cabarets, et puis naturellement comme acteur.
Il a tourné dans de nombreux films en plus.
Très nombreux films, pas toujours les meilleurs, mais au bien une quinzaine de films.
Il a tourné dans La Belle Captive de Rob Grillet, il a tourné dans les films de Jean-Pierre Mocky.
Oui, Mocky, beaucoup, oui. Plusieurs fois. Oui.
Quelques autres, pas tous bons, en effet. Non. Jusqu'à ce qu'un accident l'empêche de...
Oui, alors en 87, il a eu un AVC, un accident cardiovasculaire, et il est resté hémiplégique.
Il a même tourné dans un petit film de René, oui, qui n'est pas du tout connu et qui est hélas prémonitoire, qui s'appelle L'alcool tue.
Oui,
un
film de 15 minutes. Et c'est lui qui en avait écrit le scénario.
Oui.
C'est lui qui en avait écrit le scénario, oui.
Donc un personnage très complet, vous voyez, il n'a pas écrit de roman. Et alors ses carnets sont à peu près 900 pages, en effet, publiés par Gallimard à la fin du siècle dernier. Et sont une longue méditation sur le théâtre.
pas seulement sur le théâtre, beaucoup sur lui-même, parce que finalement, le seul personnage qui l'intéresse, c'est lui-même. Mais ça lui pose beaucoup de problèmes, ce personnage-là. D'ailleurs, il a des choses très intéressantes sur le personnage, on en parlera tout à l'heure. Alors, la pièce, pour raconter grossièrement ce qu'elle contient, c'est très facile, c'est rien. C'est pas un ménage à quatre, mais c'est une rencontre à quatre. Il y a deux personnes ennemies, c'est-à-dire il y a un couple d'hommes, un couple simplement professionnel, donc Bertrand qui est le jeune et puis Fernand qui est le vieux. Et il y a comme une puissance tutélaire, qui est quelqu'un qui les nourrit, qui vraiment fait la maman, en même temps qu'elle est la propriétaire de la boutique que tient le Fernand. Alors c'est une boutique de tout et rien, on change, disons, de spécialité toutes les semaines. Donc il y a Madame Séverin, qui est cette personne âgée, un peu plus âgée que tous les autres, même de Fernand. Donc vous avez les trois âges, l'âge de, pas l'adolescence, mais disons l'âge adulte débutant, 25 ans, Bertrand. Vous avez le Fernand qui est lui dans la quarantaine bien tassée, et puis Madame Séverin qui doit avoir dans la soixantaine. Et il va arriver quand même quelque chose, quand même, il y a quelque chose qui arrive, c'est le seul coup de théâtre, si on peut dire, c'est l'arrivée d'une inconnue qui voudrait trouver la boutique de Madame Séverin pour pouvoir devenir, à son tour, chapelière, parce que Madame Séverin fabrique des chapeaux et cette jeune femme, Germaine, est, disons, capable d'en fabriquer. Elle est récemment devenue orpheline, donc elle a besoin de travail, et elle se trompe de boutique, comme les deux boutiques de Madame Séverin et de Fernand sont côte à côte, elle tombe dans la boutique de Fernand. À partir de là, bon, c'est tout simple, on peut lire.
Qu'est-ce que nous allons faire ?
Alors, on va commencer par le commencement.
Les premières scènes.
Les premières scènes, je vous donne quelques indications scéniques pour situer, mais c'est très peu de choses. Donc vous voyez les quatre personnages, la jeune c'est Germaine, la vieille c'est Séverin, le jeune c'est Bertrand, le vieux c'est Fernand. L'intérieur d'une boutique dont on ne sait quoi, un soir d'automne, par la porte qui donne sur la rue, entre une pauvre petite demoiselle, c'est Germaine. Elle s'aperçoit timidement que la boutique est déserte. Scène 1, Germaine seule.
Il y a quelqu'un ? Si ce n'est pas ici, ce ne sera nulle part. D'ailleurs, c'est ici. Madame Séverin, c'est ici? Tant pis, rien à faire. Moi, je reste là. On a mis une annonce, non? Alors moi, je reste là. C'est la huitième que je fais. Des boutiques, j'en ai vu. C'est encore des gens qui débutent. On attend. Les chapeaux ne sont pas là. Je m'en vais. Il n'y a personne ? Madame Séverin, c'est ici ? Ça vient, oui ? Tantine. C'est pas mal tout ça, dis donc. S'il vous plaît, monsieur, dame. Un pneu. Je me suis encore trompée de boutique. Ce n'est pas juste. Mais alors, comment qu'ils font leurs annonces? Pas un chapeau. Il n'y a pas un chapeau.
Entre une dame hâtive, c'est Madame Séverin. Celle 2, Madame Séverin, Germaine. Madame Séverin.
Il n'y a personne.
Germaine.
Non. Eh bien, il faut crier plus fort. Il n'y a personne.
T'as raison, Germaine.
Vous restez là? Oui, non, oui, j'attends. Bon, vous seriez bien gentil, ma bouteille. Moi, je m'en vais, la frite à ces messieurs. Soyez tranquille, mon petit, ils ne resteront pas longtemps dehors. T'es pas chaud, hein? Ça serait plus pour un litre d'eau de Javel, au cas où. Je reviens, bonsoir.
Elle est sortie.
Dites, madame Séverin, c'est ici. Tant pis, je m'installe, et puis, hein? Et à l'heure qu'il est, la frite à ces messieurs? Un litre d'eau de Javel? Toujours des gens qu'on ne connaît pas, quelle barbe! Ils ne vont tout de même pas me renvoyer à Pontoise à cette heure-ci! Non, quoi, il y a des limites! C'est vrai, on cherche du travail, ils en ont, ils se prennent pour Napoléon. Une frite.
Encore un peu de silence. Puis une longue ficelle qui aboutit au pied de Germaine se tend. Quelqu'un, dans la pièce voisine, en a pris l'autre bout. Ce quelqu'un entre. Il marche lentement car il rembobine la ficelle. On remarque en outre une petite cuvette en émail sous son bras. Il s'appelle Bertrand. Germaine s'est levée. Le moment vient où Bertrand aperçoit Germaine. Germaine.
Je suis venue. Voilà, c'est ce qui m'a fait venir. Bonsoir, monsieur. Parce que on m'avait dit, enfin, j'ai lu. Eh ben, ça, par exemple. Ah, c'est drôle. Bonsoir, mademoiselle. Je vous reconnais bien. Ah, non, sûrement pas, monsieur. Si, si. J'ai pensé à vous cet après-midi, tenez.
Il fouille dans un tas de magazines et lui présente une cover girl.
Vous voyez, à force de vous promener dans le quartier, ce n'est pas moi. Ah, il ne fait pas très clair ici. Mais tout de même, vous lui ressemblez, non? Je ne sais pas, vous attendiez cette dame, peut-être? Pensez-vous, je ne la connais pas. C'est pour ça que ça m'étonnait. Ah, je suis désolée. Faut pas être désolée. Vous n'êtes pas mal non plus. Je viens parce que ce matin, j'ai lu... Oui, alors, c'est tout à fait autre chose. Hein. Je vous demande pardon. Qu'est-ce que je vais vous vendre, mademoiselle? Dans le journal! Non, je suis venue vous voir parce que... Voilà ce qui se passe. J'ai perdu ma tante et je cherche une... Ah bon? Eh bien, j'aime autant ça parce qu'il faut dire que je n'ai pas grand-chose en ce moment. Bon, alors, quoique à cette heure-ci, en général, je crois bien que c'est fermé. Quelle heure est-il? Enfin bref, oui. Dans le journal? C'est encore un coup à faire, non? Ça ne fait rien, puisque vous êtes là, asseyez-vous. Je dis, asseyez-vous, je vous verrai mieux.
Il l'examine avec la lampe qui éclaire la table.
C'est ce matin, en lisant le journal, parce que j'arrive de Pontoise. C'est bien ici qu'elle habite, Madame Séverin? Madame Séverin, oui, vous la connaissez? Tournez-vous de profil. Non, je ne la connais pas, c'est ma tante qui... Vous ferez connaissance. Ce n'est pas difficile. Bon, eh bien, c'est parfait. Pour moi, c'est oui. Fernand! Ah, le bougre! C'est parfait, restez assise, mademoiselle. Et en attendant, comment vous appelez-vous? Fernand! Hein? Tilgout, Germaine. Tilgout. Ben quoi, Fernand? Germaine. Bon... Eh bien, il faut voir Fernand. Moi, je m'en vais. Mais ça marchera. Quand vous verrez Fernand, vous n'aurez qu'à lui dire de vous regarder. Il ne comprendra peut-être pas pourquoi, parce que... Mais ça ne fait rien. Dites-lui que je lui expliquerai tout ça. Et puis, ce n'est pas bien de me faire des cachotteries. D'autant que c'est de moi l'idée. Il aurait pu, quand même. Mais, Madame Séverin, quand est-ce que je la verrai? Quand vous voudrez, tout à l'heure. Vous êtes très bien. Vous n'avez pas vu mon chapeau? Non, ne vous dérangez pas. Si vous ne l'avez pas vu, c'est qu'il n'est pas là. Fernand! Ça ne fait rien. Il va sûrement venir.
Il sort. Germaine, seule, dans la clarté de la lampe, scène 4.
Encore des ahuris. Ou alors, c'est la chapellerie en gros. Moi, je ne veux pas. À peine fini le chapeau, on l'emballe par douzaines et dans des caisses au lieu de le vendre. Moi, faire des chapeaux sans les vendre, je ne veux pas. Il y a la peine et il n'y a pas le plaisir, ces barbes. Pas un. Il n'y en a pas un. Et puis, il ne se presse pas. Hein. Ça va bien que Tantine est morte parce que... Moi, je serais bien restée à Pontoise, qu'est-ce qu'il croit? Ah voilà, le Fernand. Ah, oh, je voudrais bien qu'elle arrive, parce que j'ai la trouille. Monsieur?
Ah, il y a du monde. Je ne vais pas vous déranger. Auriez-vous aperçu le jeune homme qui s'appelle Bertrand?
Je ne sais pas s'il s'appelait Bertrand.
Si, un grand garçon avec un chapeau. Oh, pas si grand que ça, du reste. Vous étiez sûrement là quand il a crié mon nom pour que je vienne. Fernand, c'est moi, Fernand.
Bonsoir, monsieur. Parti, il est par là.
Il ne vous a pas dit de me dire quelque chose?
Il m'a dit de vous dire de me regarder.
Oh, celui-là.
C'est ce que je lui ai dit. Moi, j'ai pas du tout compris pourquoi il m'a dit de vous dire ça.
C'est toujours pareil avec Bertrand. Faut qu'on devine. Asseyez-vous quand même que je vous regarde. L'hiver a reconnu les fleurs et dans ses pinces les perles. Ah, vous venez pour l'annonce?
Oui, monsieur.
Mais pourquoi qu'il a mis une annonce? Il y a des moments, ma petite. Enfin, ça y est. Je lui dirais, dans ce cas-là, c'était pas la peine de me demander mon avis.
J'arrive de Pontoise, monsieur.
Vous pensez bien qu'on va pas vous renvoyer à Pontoise, ma mignonne.
Je m'appelle Thibault, Germaine.
Eh bien, Germaine, rasseyez-vous, on va causer. Je m'appelle monsieur Faure. Vous pouvez commencer à m'appeler Fernand, ça ira plus vite. Alors, Germaine, alors, vous savez raccommoder la porcelaine?
Non.
Comment non? Vous ne savez pas raccommoder la porcelaine?
Non, ça ne m'est jamais arrivé.
Bertrand! Je vous dis, ce gars-là, il est unique. Alors, vous ne savez pas raccommoder la porcelaine? Très bien, remarquez, la franchise a du bon. Mais tout de même, la porcelaine, je veux bien que ce soit pas difficile de la casser, mais la raccommoder, dites donc. Est-ce que vous avez envie d'apprendre seulement?
J'étais venu pour le...
Est-ce que vous avez envie d'apprendre?
Moi? Mais monsieur, vous me demandez ça? Mais monsieur...
Envie ou pas envie?
Peut-être bien que je pourrais en avoir envie.
Eh bien, ça nous suffira. Vous êtes encore relevé. Rassignez-vous donc. On a tout son temps.
Madame Séverin, j'aurais voulu parler à Madame Séverin.
Je la connais, vous la verrez tout à l'heure, Madame Séverin, c'est ma voisine. Alors,
je me suis trompée de boutique.
Mais non, c'est une marchande de chapeaux.
Ah, bah justement. Oui, je suis modiste, justement. Je me suis trompée de boutique. Excusez-moi, monsieur, je suis désolée. Je m'en vais. Pardon, c'est plus fort que moi.
Eh bien, allez, raide. Et elle s'en va. Ah, ça, c'est rigolo. Et elle s'est trompée de boutique. Sacrée petite fille. Bertrand! C'est ça qui va faire plaisir à Bertrand. Courez vite, ça va être fermé. Au revoir, mon petit. C'est des choses qui arrivent. Voilà pour le début.
Donc, ça nous amène à présenter ces personnages.
Les personnages.
Ce ne sont pas des personnages. Ça commence comme du labiche, évidemment. Le personnage se trompe de destination, croit être chez une marchande de chapeaux, alors qu'elle est chez des raccommodeurs de porcelaine et d'autres choses encore. Donc il y a un malentendu qui se poursuit. Mais en réalité, tout ça va dérailler encore plus que dans le simple quiproquo qu'on connaît depuis labiche.
Le quiproquo, il est tout à fait traditionnel et il est prolongé. Prolongé d'une façon d'ailleurs assez astucieuse, puisque. Elle rencontre la personne qu'elle cherche, mais elles ne se reconnaissent pas. C'est ça, évidemment, qui est le fin du fin dans les propos. Mais on pourrait peut-être dire un mot sur la composition de cette pièce, parce que du billard, un peu comme Genet, et j'ai travaillé sur Genet, il se trouve que tous les deux ont écrit, dans le même espace de temps, en une dizaine d'années, toutes leurs pièces importantes. C'est-à-dire que vous avez ces naïves hirondelles qui ont été mises en chantier dès 1952. Et donc, elle a été jouée en 1961. Donc, en 1952, il a écrit, par exemple, la chanson que vous entendrez tout à l'heure, mais cette chanson est extrêmement noire. Alors, justement, on ne l'entendra jamais chanter dans le cours de la pièce parce qu'elle est trop noire. Donc, il y a une tonalité qui était la sienne en 1952 qu'il ne peut plus reprendre telle qu'elle quand il va mettre sa pièce tout à fait au point. Donc, il y a une évolution à l'intérieur et une évolution considérable parce que la pièce, au début, c'était un conte. C'était un conte merveilleux avec un prince Fernand, une princesse Germaine, etc. Et il y avait aussi une pièce à six personnages avec un docteur qui était propriétaire de la boutique et qui intervenait comme docteur une fois pour sauver Fernand qui se plaignait d'avoir été écrasé par un autobus. Mais comme il n'avait rien, on lui dit « Mais quoi ? Ah, il est passé tout près !» Bon, alors ça, c'est les plaisanteries à la Dubillard. Donc ça, c'est pour, disons... l'écriture un peu complexe et un peu, on pourrait dire, dangereusement décalée, parce qu'il y a un aspect, on pourrait dire, traditionnel, dans l'utilisation des procédés comiques les plus connus, les plus répertoriés, et puis il y a des éléments qui lui appartiennent en propre, et surtout il y a une pensée qui lui appartient en propre, mais qui est un peu noyée dans le, disons, dans le conventionnel de jadis ou d'hier. Et dans cette mesure, c'est une pièce assez difficile à prendre parce que sa tonalité est multiple. Alors, pour les personnages, puisqu'on en parle, c'est là justement qu'on voit bien qu'il y a une ambiguïté. Parce qu'il y a un aspect très psychologique. Il y a un aspect jalousie, rivalité des femmes. Madame Sévran est vieille, Germaine est jeune. Les deux garçons vont lui tourner autour, c'est Germaine, et chacun va vouloir s'en emparer. Bien sûr, c'est le jeune qui ira avec la jeune. Donc, on est dans un cadre on ne peut plus banal. Mais cette banalité-là, elle est trompeuse. Parce que justement, il y a des textes de Dubillard dans les carnets qui ouvrent des horizons tout différents. Et on s'aperçoit, il fait un très long portrait de Madame Sévran que j'ai reproduit dans l'édition, où il montre que Madame Sévran, finalement, c'est une personne qui est en train de s'envoler, qui est en train de disparaître. Et de disparaître, vous voyez, comme ça, volatile. Et donc, cette Madame Sévran, finalement, c'est une sorte de représentante de l'espèce qui décroche de la réalité, qui se rend compte finalement qu'elle n'est plus de ce monde, et au lieu de monter, comme on pourrait l'espérer, au paradis, elle chute. Autrement dit, la chute, qui est un procédé comique on ne peut plus banal dans le théâtre comique, elle est ici symptomatique de quelque chose de beaucoup plus philosophique, c'est-à-dire c'est la chute de l'homme, ce n'est pas la chute d'un ange, mais la chute de l'homme, c'est une espèce de vision désespérée de la vieillesse, à travers Madame Sévran. Alors que ça ne donne pas du tout l'impression, normalement, cette chute, d'être dans cette orientation-là. Et d'autre part, la pièce nous donne l'impression d'être curieusement la patte en l'air, puisque à la fin de l'acte 2, Bertrand et Germaine s'en vont pour vivre leur vie en motocyclette, et les deux vieux vont rester, Madame Sévran et Fernand. Et on a l'impression que la pièce se termine, vous allez rentrer tout à l'heure, sur une note extrêmement noire. Or, Dubillard a écrit que, en fait, cette pièce a une fin optimiste. C'est une leçon de je peux vous donner la phrase si vous voulez, c'est court. C'est une leçon d'espoir. C'est Germaine et Bertrand qui vont nous survivre. Cela, cette acceptation ou volonté de mourir, doit devenir le sens de la pièce. Donc, l'acceptation ou volonté de mourir, c'est ce qui attend Madame Sévran. De l'autre côté, il y a la vie. Ce que je propose au public, non pas un rabâchage d'amertume, mais un secret de vie, une clé. Donc, quelque chose qui échappe totalement aussi bien au lecteur qu'au spectateur. Et évidemment, les erreurs d'interprétation vont être légion, mais elles sont un peu normales du fait qu'on n'avait pas les clés en question. Donc, le personnage, il est ce qu'il est d'habitude, mais il est beaucoup plus, et ça, il l'a dit lui-même, Dubillard, a une formule extrêmement forte, une définition du personnage qui est assez complexe, mais en même temps on peut la comprendre. Le personnage, c'est pas la figure d'une personne qui s'exprime, mais la face blanche et renversée de l'acteur négativement. Autrement dit, le personnage, photographiquement, c'est le négatif de l'acteur, mais c'est le négatif blanc. C'est le négatif neutre. Autrement dit, si vous avez uniquement en ligne de mire le personnage, vous ne pouvez pas savoir qui il est. Puisque ce qu'il est, c'est secret. Ce qu'il est, c'est caché. Et il y a quelques petits signes très masqués qui vous permettraient de saisir l'acteur. Et qui est l'acteur ? Ben, Dubillard, naturellement. Il n'écrit que pour lui, il n'écrit que sur lui. Et donc, vous avez là une phrase extrêmement intéressante pour ouvrir la voie à un autre type de personnage, qui n'est plus du tout un personnage, disons, personne tirée de l'expérience, mais un personnage acteur, lequel acteur est la personne du billard. Donc, quelque chose qui ouvre des horizons sur la suite même de l'histoire du théâtre. Que dire d'autre ? Eh bien, la rivalité des balles, c'est évident. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour qu'il s'accroche, puisqu'il y a la photographie qui va être, on va le voir, une bonne occasion d'entrer en connaissance. Et alors, on a peut-être là, sur ces personnages, la suite, la scène 13.
De l'acte 1.
De l'acte 1. Je vous parlerai de la composition tout à l'heure, mais elle est aussi assez intéressante et assez secrète aussi. Alors, la scène 13, entre Bertrand et Germaine. Bertrand.
Fernand ! Ben quoi, Fernand ? Oh là 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 là, quelle vie ! Je ne sais plus, moi. C'est bien simple, je ne sais plus. Vraiment, c'est une drôle de ville, Paris. Quoi ? Mais non, c'est partout pareil. On est fatigué, fatigué. Vous devriez aller vous coucher. Ah oui, on va aller se coucher, hein. Et demain matin, qui est-ce qui se réveillera ? Nous, comme d'habitude, on se réveillera. Fernand ! Non, ce qu'il y a, c'est que... Ce qu'il y a... Savez-vous ce que c'est, mademoiselle ? Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. Oui. Quoi, oui ? C'est vrai, ce que je dis ? Pas besoin d'aller chercher loin, tenez. Vous. Vous, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez, hein ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on vous a déjà photographié seulement un peu ? Oui, un peu. Mais ce n'est pas votre métier. Vous êtes fait photographier comme ça, comme tout le monde. Seulement, quand il s'agit de se faire photographier sérieusement, c'est fini. Plus personne. Tant que ça ne donne pas de mal, tout le monde veut bien. Oh, ça, on en trouve plus qu'il n'en faut. C'est comme pour l'annonce, pour l'amour. Mademoiselle, est-ce que je peux vous passer la main ? Mais oui, monsieur, comment donc ? Et allez-y, pour les pattes en l'air, il y en a. On est tout sucre et tout miel, seulement après, quand il s'agit de s'occuper des marmots qui viennent, et des varicelles, et de faire le ménage, et de faire la vaisselle. Ah ! Mais c'est que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça que je voulais, si j'avais su. Et patati, et patata, plus personne. Eh bien, moi, j'en ai assez, là. Si vous voulez vous faire photographier, il faudra vous adresser ailleurs, ma petite. Moi, c'est fini, je tire le rideau, les bouts de chiffon, j'en veux plus. Allez-vous-en. Et puis, ne pleurez pas comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu ? Enfin quoi ? Je n'ai rien demandé, moi. Je suis là, je n'arrête pas d'aller à droite et à gauche pour voir, pour pouvoir me rendre utile. Je ne peux pas rester une minute à ne rien faire. Regardez, cette ampoule, là. Qui est-ce qui m'oblige à la mettre là, cette ampoule, hein ? Personne. Alors ce n'est pas pour ça que je pleure. Allez, allez, ne pleurez plus. Oh non, ce n'est pas drôle tous les jours, je sais bien. Même quand on a du caractère, même quand on a de l'ambition, ça ne suffit pas d'avoir de l'ambition comme ça. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Oh là là, si je savais ce que je voulais. On croit qu'on veut et puis ça s'en va. Vous croyez que je veux faire de la photo, vous ? La photo, la photo. Eh bien, ça m'est égal, la photo, voilà. Non, ça ne vous est pas égal, la photo. Ah non ? Non, ça ne vous est pas égal, la photo. Vous dites ça ? Vous dites ça pour me faire pleurer. Vous croyez ? Si je vous disais que je veux bien faire de la photo avec vous, vous ne diriez pas ça. Vous ? Mais je veux bien, moi, je veux bien faire de la photo avec vous. Ce n'est pas vrai ? Si ! Oh, si, alors ! Je ne sais plus où j'en suis, moi. Pourquoi vous voulez faire de la photo avec moi ? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Ah, ah ! Le ménage aussi, la vaisselle aussi. Il ne faut pas s'exalter comme ça, Germaine. Oh, moi, quand je pleure, je ne sais pas ce que je ferai. D'abord, on n'a pas la pellicule. On en achètera. On n'a pas d'argent. On en demandera à Tantine. Et si Tantine ne veut pas, tant pis si elle ne veut pas, j'ai fait qu'on veuille. Oh, Germaine, oh, Bertrand ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Ben, je sais rien, moi. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je vous ai appelé Bertrand ! C'est la première fois que quelqu'un qui s'appelle Germaine m'appelle Bertrand. Oh, quelle barbe !
Elle s'enfuit dans le désarroi.
C'est une scène extraordinaire, d'abord.
Oui, c'est très rare. C'est même la seule scène d'amour de tout le théâtre du billard. Un amour un peu particulier, mais en fait, tout est dit.
Il y avait en même temps une sorte de délire verbal.
Il y a à la fois du délire, mais il y a aussi beaucoup disons, d'enchaînement. Il y a quelques grandes tirades, celle-ci en est une, mais il y en a très peu quand même. Celle-ci, il y en aura une autre de Bertrand, la grande tirade philosophique de la pièce, Mais il est bon de parler du théâtre, puisque, pardon, du langage, puisque c'est le langage qui sert de point de mire. On a dit que c'est une pièce sur le langage. C'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, le langage de Dubillard est particulier, parce que c'est un langage incoatif. C'est un langage qui essaye de commencer, et qui correspond à la psychologie des personnages. Je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez bien senti, c'est des personnages velléitaires, c'est des aboliques, c'est des procrastinateurs. Ils remettent toujours au lendemain ce qu'ils pourraient faire, ils ne font rien. Ils sont toujours très occupés, mais à ne rien faire. Donc on a affaire à un langage qui, sans arrêt, essaie de démarrer, et puis patine, et dérape, et n'avance pas. Donc il y a énormément de répétitions du même coup, puisque ça recommence selon le même mode, répétition, et naturellement, on a affaire à des éléments qui sont proprement dubillardiens. Et un qui est vraiment secret, mais en même temps auquel il tient particulièrement, c'est la construction musicale de sa pièce. Vous avez affaire à des personnages qui n'ont l'air de rien. En fait, on a affaire à la constitution d'un quatuor. C'est-à-dire que vous avez d'entrée trois personnages qui sont le violon Bertrand, l'autre violon, deuxième violon, Fernand, et j'ai fait le compte, ils ont à peu près le même nombre de répliques. Bien que vous en doutiez, c'est Fernand qui est le personnage principal, puisqu'il était joué par Dubillard lui-même. Je dis au passage que Dubillard, à l'époque, n'avait que 38 ans, alors qu'il se donne comme un vieux. Donc on a les deux violons, et on a la violoncelle, qui est Mme Séverin. Arrive, comme dans l'histoire de la musique, arrive l'alto, qui va constituer le quatuor. Donc vous allez avoir un quatuor constitué et Germaine a droit à une scène en solo. Puis on va avoir des scènes en duo, en trio, en quatuor. Et vous remarquerez, si vous regardez la pièce, qui est apparemment mal fichue, puisque vous avez 14 scènes dans l'acte 1, vous n'avez plus que 6 scènes dans l'acte 2 et vous n'avez plus qu'une seule scène dans l'acte 3. On se dit quand même, ça ne va pas. En fonction de la composition classique, ça ne va pas. Mais on s'aperçoit que vous avez toutes les combinaisons possibles entre les différents personnages. Dans cette constitution de quatuor, de duo ou de trio, on peut évidemment introduire d'autres combinaisons selon l'âge, selon le sexe. Et toutes les combinaisons sont proposées, sauf deux. Donc on a l'impression que tout ça est particulièrement, disons, conscient de la part de Dubillard en ce qui concerne la musique. Et pour que vous soyez convaincus par ma proposition de notre Germaine comme altiste, vous avez la même année, pas la même année, mais déjà en travail chez Dubillard, Le Jardin aux betteraves, où Bettina, qui est Bettina de Beethoven, mais qui est dans la pièce qui s'appelle Angélique, elle est altiste. Donc on a vraiment affaire à quelque chose qui est une obsession musicale, et la chanson que vous entendrez, c'est lui-même qui l'a écrite, donc il est musicien assez pour écrire une petite chanson. Donc on a véritablement ici quelque chose qui ressortit à autre chose que la littérature théâtrale habituelle. Sur le langage, il y a quelque chose qui est intéressant, qu'il a inventé, c'est ce que j'ai appelé moi le dialogue retard. Le dialogue retard, ça veut dire que quand vous parlez à quelqu'un, vous lui dites « Alors, comment vous portez-vous aujourd'hui ?» Et il répondra « Il fait froid ce matin », c'est-à-dire ce qu'on peut appeler un dialogue de fou. Or, c'est un dialogue pas tout à fait de fou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réplique adaptée à la question. Et c'est plus tard, avec retard, que vous aurez à voir quelque chose qui pourra tenir lieu de réponse à la question qui a été posée 3 ou 4 répliques plus haut. Et dans cette mesure, on a véritablement affaire à quelque chose qui est assez musical aussi, c'est-à-dire une proposition du thème qui est traitée, mais pas simplement suggestion, on l'indique et on passe à un autre thème, on les entrelace, et ça donne ceci, c'est la scène 14, juste après, et je vais simplement insister en le disant sur les mots qui forment les différents thèmes, c'est Fernand. Voilà le vinaigre, eh bien, bonsoir quand même, parce que j'en ai marre. Ah, je dois être coquet, moi, avec mon verre de vinaigre. Eh, Madame Séverin, ça reste à la boutique. Tu te rends compte? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, Bertrand? Patron, vous savez, cette petite, elle fit un mauvais coton, Fernand. Ah, elle est belle, ma boutique. Bertrand, vous savez ce qu'elle veut faire? Fernand, non. Bertrand, bon, tu vas pas rester là avec ton vinaigre. Verse-lui un peu sur la tête. Mais oui. Bertrand, elle veut faire de la photo. Fernand, ah, Bertrand. Oui, ben, mon vieux, c'est ça que tu appelles un nœud? Fernand, j'ai jamais su faire les nœuds qui tiennent. Bertrand, pas prudent. Tu la vois, toi, en photo, Germaine? Vaudrait peut-être mieux que tu les refasses. Vous voyez, là, c'est Germaine, là, c'est les nœuds. Bertrand, c'est pas son genre, la photo, Germaine. Fernand, le vinaigre, ça se boit ou ça se frictionne, etc. Ben, c'est le type même du dialogue du billardien, le dialogue retard. Et alors, une autre chose qu'il n'a pas inventée, qui est très courante à l'époque, c'est la littéralité. La littéralité consiste à utiliser une formule lexicalisée. Je suis vraiment au 36e dessous. Un 36e dessous, c'est un terme de théâtre, vous savez. Donc, ça veut dire que je suis vraiment fatigué. Vous prenez cette formule au pied de la lettre, au sens propre et non pas au sens figuré, et vous allez essayer de la faire voir. Naturellement, c'est difficile de faire voir le 36e dessous, mais si vous dites « je suis complètement cassé », ah, alors là, on peut casser. Ce qui fait que vous allez avoir une cristallisation de la métaphore, on pourrait dire une incarnation de la métaphore en éléments visuels, en sensations directes. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la pièce, tout ce qu'on casse dans la pièce, ce n'est pas les sources qui sont cassées, c'est les gens qui les utilisent qui sont cassés. Il y a donc un transfert de l'un sur l'autre, de l'objet sur le personnage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été inventé, réinventé par le théâtre des années 50. Vous avez naturellement, vous savez, Ionesco, dans Victime du devoir, il monte sur la table à un moment, le personnage, et on lui dit, mais pourquoi ? Il veut se donner en spectacle. C'est un spectacle, et la formule lexicalisée, il monte sur la table. Il est évident que c'est un procédé extrêmement naïf, simpliste, si on le traduit. Il ne faut surtout pas le traduire. Il faut donc faire en sorte que ça ne soit pas traduisible. Et ça, généralement, ça a bien marché. Les critiques n'y ont vu que du feu, ils n'ont pas compris que c'était simplement une sorte de transfert du sens figuré au sens propre, et du sens propre à une réalisation visuelle. Alors, vous avez la pièce de Weingarten. Je vous dis en passant que Weingarten était un des grands amis de Dubillard et que Dubillard a joué dans Akara, qui est la grande pièce surréaliste finale, la fin du surréalisme, en 1948. Et dans Akara, vous avez quelqu'un qui toque à la porte, c'est le comte. Or, le comte, il est en train de s'enfoncer dans le parquet. Il s'enfonce dans le parquet. Bizarre, évidemment. Et on dit, on commente, ah, il baisse beaucoup. Alors, vous avez Ionesco, vous avez Weingarten, vous l'avez moi chez Beckett. Mais c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme Aristophane. Et la paix, c'est une entité. Mais la paix, on va la transformer en bousier. Et la paix, ça vit de quoi ? Ça vit de compromis. Ça veut dire qu'on ne va pas imposer son point de vue, sinon on n'aura jamais la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, les compromis ? Ça veut dire qu'on va bouffer de la merde pour pouvoir en sortir. Et c'est ce dont se nourrit le fameux bousier dans la paix d'Aristophane. Et Aristophane est vraiment l'inventeur de cette littéralité. Donc vous voyez, on est dans un système à la fois relativement ancien, même très ancien, mais qui a été totalement réutilisé, réexploité systématiquement par ces écrivains des années 50, Ionesco et Dubillard tout particulièrement. Donc, sur le langage, on pourrait évidemment parler beaucoup, mais il y a une chose qui va à la fois être du langage et des objets, c'est ce qu'on peut appeler... Alors, vous avez une question là-dessus, sur les objets?
Oui, bien sûr, effectivement, les objets dans la pièce, qui sont, je veux dire, symboliques aussi, puisqu'ils sont classés, renvoyant au personnage classé, vous le disiez vous-même.
Oui.
Il y a les chapeaux, qui ont également une signification symbolique, et il y a la table qui s'effondre, tous les objets nous trahissent.
Tous les objets se cassent, la table a un pied de trop ou pas assez, donc elle s'effondre deux fois. Le hamac, le nœud est mal fait, vous avez vu, j'ai vu tout à l'heure, donc le hamac va se dénouer, puis Madame Séverin va tomber et se casser, et puis après, une autre fois, elle va recevoir un paravent sur la tête, à nouveau, elle va s'évanouir, etc. Donc toutes les choses sont autant d'obstacles, d'ennemis,
comme dans le cinéma muet, on pourrait dire.
Oui. Du cinéma mais ça va muet. Plus loin, parce que les objets ont une individualité. Les objets prennent des initiatives. Et alors là, on va rentrer dans quelque chose qui est évidemment de l'époque, c'est la psychanalyse qui transforme les objets en autant de symboles. Et naturellement, ce sont des symboles sexuels. Donc on a affaire, chez Dubillard, à ce que Lautréamont a inventé. C'est beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Or, ici, chez du billard, on a la rencontre qui n'est pas fortuite entre une bouteille d'eau de Javel, chez les Montréards, et une tarte. Une tarte au fromage. Mais tarte quand même, la tarte, c'est la femme. Or, dans un livre qui vient de sortir d'Agnès Pierron, qui s'appelle Les bagatelles de la porte, où il est question de tout le vocabulaire qu'on peut utiliser quand on fait la cour à quelqu'un, alors ça dépend un peu du niveau social que vous avez, parce que ça devient plus ou moins grossier, et il y a une expression qu'on utilise, et qui est, excusez-moi, bouffer la tarte au poil. Bouffer la tarte au poil, vous voyez, vous la retrouvez, la tarte. Donc quand il est question de tarte, il est bien question de femme. Donc on a affaire, vous voyez, à une systématisation de tous les éléments qui sont nourriture, objet, sexualisé, les trois à la fois. Donc, se mettre à table, alors ça me vient immédiatement à l'esprit le souvenir d'une phrase d'un écrivain surréaliste, 1922, la pièce qui s'appelle « Entrée libre », et la pièce commence comme ci, c'est une histoire de ménage à trois, l'amant est invité par le couple normal, disons légitime, et on voudrait évidemment essayer de régler la situation, et l'amant dit « On m'invite à dîner pour étrangler les enfants. Merci, je ne mange pas de ce pain-là. » Autrement dit, on l'invite à dîner pour régler ce problème sexuel et, dans cette mesure, en finir avec cette, disons, cette anormalité d'une nourriture extra-conjugale. Donc, pour ce qui est de ces images, disons, à la fois à base d'objets, de nourriture et de sexe, je vous donner quelques exemples. En voici un, c'est celui, on le lira tout à l'heure, c'est une phrase qui est riche aussi d'un point de vue linguistique sur l'utilisation des allitérations. Eh bien, moi non plus, je n'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est là. Non, c'est pas là. Et c'est là, là, parce que c'est pas le sandwich au saucisson sec qui me pèse sur l'estomac. Donc, vous voyez, c'est le sandwich, mais en fait, c'est l'amour. Donc là, la liaison des deux, elle se fait très directement. Premier exemple. Deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, c'est... Non, c'est pas très significatif celui-là. Ah, vous savez, il faut trouver ses repères. Oui, le chapeau tombe du haut du mannequin. Pour donner une. C'est pas du sexe, ça, c'est simplement pour souligner l'autonomie de l'objet qui prend l'initiative de tomber tout seul. Puis vous avez. Il y en a pourtant beaucoup que j'ai noté. Alors ça, c'est peut-être le plus significatif, ça nous suffira. C'est Fernand qui rappelle ses souvenirs de conquête féminine. Et il parle d'une certaine Suzanne qui, elle, savait faire de la motocyclette. Vous pensez, si on l'a prise en remorque, non mais sans blague, elle n'était pas ordinaire, Solange. Et avec ça, toute fraîche, toute mignonne et pas grande. Le genre cornet, panaché, vanille, framboise, une vraie friandise, la vraie grenouille. Tiens, voilà ce qu'il nous faut. Solange, etc., etc. Donc on est vraiment là dans ce domaine qui est à la fois évidemment un ressort comique très théâtre de boulevard, mais évidemment ça a des implications psychanalytiques en ce qui concerne une psychanalyse bien sûr du samedi soir, mais malgré tout c'est autour de cela que tout tourne. Avec une assistante particulière sur la tarte que vous le verrez, parce qu'on lira plus tard.
Pour d'ailleurs revenir à notre lecture suivante, pour illustrer votre propos.
Alors, on est à l'acte 2, scène 4. À l'acte 2, scène 4, c'est la deuxième scène entre Bertrand et Germaine. Ça n'a pas beaucoup inventé, c'est un bon signe justement de cette répétition. Cette répétition, mais avec une petite évolution qui va mener à ce que vous entendrez, c'est-à-dire un clash. Bertrand.
Vous me dites que ce n'est pourtant pas difficile de vous comprendre. Bah, ça alors, vous parlez, bien sûr que je vous comprends. Vous vous êtes trompé de boutique, il faisait nuit, vous reveniez de l'enterrement de votre tante, et tout le reste, j'ai compris, allez, seulement dites-moi, est-ce que ça vous suffit que je vous comprenne? Attention, je vous pose une question dure. Est-ce que ça vous suffit que je vous comprenne? Parce que si ça vous suffit, vous pouvez vous en aller, c'est fait. Je vous ai comprise depuis longtemps, c'est fini. Vous avez votre compte, au revoir, et portez-vous bien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Réfléchissez avant de répondre. Ça me fait plaisir que vous m'ayez comprise. Ça vous fait plaisir? Bon, très bien. À moi aussi. Et alors? Quoi donc? Alors, c'est bien ce que je disais, vous restez là. Eh bien, oui. On ne va pas s'en aller quand on a trouvé quelqu'un qui vous comprend. Voilà, vous restez là. Ça ne suffit pas que je vous comprenne. Maintenant, il faut que je vous fasse autre chose. Qu'est-ce qu'il faut que je vous fasse? À moi? Oui, à vous. Puisque vous êtes là. Je ne sais pas du tout. Eh bien, moi non plus, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est. Oh là 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 là. Parce que ce n'est pas le sandwich au saucisson sec qui me pèse sur l'estomac. J'en aurais mangé 8 comme ça, des sandwichs au saucisson sec. Ce n'est pas ça qui m'empêcherait de respirer. Et vous avez le toupet de me dire que vous ne me demandez rien? Mais puisque je ne sais pas ce que c'est, justement, il n'y a rien de pire. Alors, qui sait ce que c'est, si c'est pas vous, si c'est pas moi? C'est personne, oui, non? C'est quelqu'un? Qui? Écoutez, Bertrand, vous savez bien qu'il faisait nuit, vous savez bien qu'on ne pouvait pas le lire, le numéro, et que si je me suis trompée, vous dites... Ah non, je vous en prie, vraiment, je vous en prie, il faut renoncer à me raconter ça tout le temps. Je voudrais bien vous raconter autre chose. Mais quoi, Bertrand? Je suis fatiguée. Moi, un gaillard comme moi, courageux comme j'étais, constamment occupé à brancher une ampoule, à bricoler un sidecar, voilà ce que je suis devenue. En un rien de temps, regardez-moi, les bras ballants, vautrés comme une flaque de cambouis. Est-ce que vous vous souvenez, au moins, le soir où vous êtes arrivé? Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai pincé les fesses? Oh, Bertrand, je sais bien que vous ne l'avez pas fait exprès! Si! C'est comme ça que j'étais, moi. Une nature pratique, directe. Pas d'embarras. Ça ne plaît pas à tout le monde, il y a du déchet, mais dans l'ensemble, on voit du pays. On reste rarement les mains inoccupées. Et le matin, boulot, soleil, le café noir, les chaussures pas cirées. J'étais comme ça. Et ça me faisait plaisir qu'elle s'appelle Solange quand elle s'appelait Solange. Et il y en avait qui s'appelaient Solange. Mais vous, quand je vous ai mis les mains aux fesses, c'est bien simple, vous n'y avez pas cru? Si! Non. Et tenez, moi qui vous parle, j'en ai connu une qui s'appelait Ursule. Oui, Ursule. Eh bien, quand je l'appelais Ursule, c'était comme quand on prend un marteau par son manche. Et je disais... Ursule! Et c'était comme si je l'avais déjà en main, Ursule! Comprenez-vous? Mais vous, quand je vous appelle, j'amène! Savez-vous l'effet que ça me fait? J'ai honte. Il ne faut pas! Ah non? Vraiment pas? Eh bien, Germaine, dites-moi, comment ça se déboutonne, cette petite chose? Bertrand! Je vous demande ça parce que je voudrais bien voir ce qu'il y a dedans. Germaine, vous permettez? Vous permettez? Vous permettez, oui ou non? Non! Vous voyez bien, ce n'est pas ça que vous me demandez. Pas comme ça, Bertrand. Bertrand, oui. Maintenant que vous m'appelez Bertrand, c'est vous qui me tenez. Alors allez-y. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Car enfin tout de même, vous n'allez pas vous contenter de rester là. Vous n'allez pas vous contenter de me donner des crampes d'estomac, non? Il va falloir vous décider. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. Vous ne savez jamais rien. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais faire de la photographie avec vous. Pas vrai? Si, je vous assure, je veux bien. Pas vrai? Vous êtes là? Oui, je veux vous voir, non? Vous êtes visible. Moi, je n'ai pas besoin d'un Kodak pour vous voir. D'ailleurs, les filles qui ont besoin d'être photographiées pour qu'on les voie, j'en suis revenue. Pourquoi pas le cinéma pendant que vous y êtes? Mais Bertrand, c'est vous qui vouliez que nous fassions de la photographie ensemble. Bien. Alors déshabillez-vous. C'est du nu que je voulais faire. Alors, vous vous déshabillez, oui? Vous voulez que je vous aide? Non! Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève? Tout? Bon. Écoutez, allez chercher votre Kodak. Mais non, j'ai tout mon temps. Allez-y, allez-y. D'ailleurs, il faut que je me rende compte si ça vaut la peine. Bertrand, Bertrand, pourquoi êtes-vous méchant? Vous êtes méchant! Moi, je vous le dis, Germaine, si ça continue, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne le sais pas du tout. Et je ne veux pas le savoir, mais je le ferai. Et pourquoi êtes-vous si méchant? Allez-vous-en, allez-vous-en. Pas par là! Avec les pigeons et avec la haricot vert. Allez, rendez-vous utile. Ce n'est pas dur de se rendre utile. Alors rendez-vous utile. Je n'ai pas de peur. En voilà, c'est de la chance qu'il ne soit pas fondu. Allez, vite! Mais tâchez qu'on mange! To be. Not to be. Eh bien, ce n'est pas la question. Moi, je ne demande pas mieux. Qu'est-ce que c'est qu'une noix? Rien. Rien du tout. Une noix, c'est une noix. Casser une noix, c'est casser une noix. D'un côté, on casse des noix. D'un autre côté, on raccommode la porcelaine cassée. Et peut-être que si demain, on venait me proposer de raccommoder les noix que je casse aujourd'hui, peut-être que je ne dirais pas non. Ou alors, il ne fallait pas inventer les casse-noix, bande de saligots. Moi, je prends les choses comme je les trouve. C'est amusant de casser les noix. Le bruit, quand j'étais petit, ça me faisait rire. Seulement, maintenant, il faut faire attention à ne pas les abîmer. À ne pas abîmer l'intérieur. Parce que dans la confiserie, on ne plaisante pas. L'intérieur, ça ressemble à un petit cerveau. Alors, doucement, on n'a pas le droit, hein? On n'a pas le droit de vous les abîmer, vos petits cerveaux. Faut faire attention, faut être poli. Poli, hein? Pauvre Yorick. Eh bien, moi, je les casserai comme je veux, mes noix. Parce qu'il y a tout de même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que pour les acheter, mes noix, il a fallu que je vende mon sidecar. Mon sidecar. Pourquoi je l'ai vendu, mon sidecar? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait de ma jeunesse? Les vaches!
Ainsi se termine l'acte 2. On n'en verra plus sur la scène Bertrand et Germaine qui vont partir ensemble. Et en effet, c'est un couple heureux et qui a rencontré l'amour.
On ne sait pas, mais on suppose.
On suppose.
Ça ne finit pas comme ça, de toute façon. Donc,
bien sûr, mais il reste l'acte 3, composé d'ailleurs très bizarrement, qui se rétrécit de plus en plus, comme l'espace dans une pièce de Lescaut d'ailleurs. Nous arrivons à l'acte 3, où il y a un thème qui est très curieux dans cette pièce, c'est une sorte de refus de la pensée.
Oui, le refus de la pensée, à vrai dire, si on se souvient de ce qui vient d'être lu, il y a une pensée, assez forte. Il y a une interrogation shakespearienne, même si on l'écarte. Donc c'est bien la question de l'être et du non-être. Et le non-être en question, c'est ne pas être cassé, ne pas être une ruine. Là encore, la littéralité, pensez aux poubelles de Beckett, les vieux, c'est des déchets, c'est des poubelles, donc les vieux dans les poubelles, ça va tout seul. Donc il y a cette notion, cette angoisse de pouvoir être sans tomber dans la déchéance, mais en même temps, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc le fait qu'on est velléitaire, aboulique, interdit tout progrès. Donc on a là quelque chose qui ramène à l'angoisse existentielle. Et naturellement, les auteurs qui travaillent dans ce domaine ont annexé du billard pour le féliciter, ce qui a été l'objet d'un malentendu, bien sûr, puisque du billard perdait son autonomie, son originalité. C'est le cas avec Ionesco. Ionesco a été très élogieux, très, disons, chaleureux à l'égard de Dubillard. Il avait besoin de ça parce que la critique n'a pas été tendre, comme vous en doutez. Et lui, il en fait évidemment la pièce de l'ennui, du désespoir. Je vous lis quelques phrases. L'ennui, que faire d'une telle vie qui nous vieillit, de l'ennui à laquelle nous ne pouvons échapper. Et malgré tout, l'intérêt du spectacle ne faiblit jamais. Alors, j'essaie de connaître la science par laquelle l'auteur fait éclore l'atroce de l'ennui, par laquelle il l'intensifie, le densifie, le cerne, le fait éclater. Et puis encore, je dois dire aussi que c'est parce que rien ne se passe, que tout se passe, et que tant de choses se passent, et que le tableau est complet de la dérision et du tragique. Les gags visuels d'un comique sombre sont nombreux. Ça, c'est la vision, disons, presque, c'est la vulgate de ce théâtre nouveau des années 50, mais ça ne permet pas de saisir l'originalité de Dubillard. Alors, il y a eu un autre type de critique, sous la plume de Le Marchand, qui soulignait, lui, uniquement un caractère, on pourrait dire, psychosocial, c'est-à-dire la nonchalance. Le fait que, dans la société, ils ne trouvent pas leur place, que c'est des espèces de personnages, de vagabonds. Alors, il ne se passe rigoureusement rien, nonchalance d'esprit, nonchalance contagieuse, ils laissent les choses aller comme elles le peuvent, pièce à gag et gag en tout genre. Alors, vous voyez, ça, c'est aussi une réponse un peu facile qui ramène Dubillard à ce qu'il a été, justement, Grégoire et Amédée, les dialogues, puisque les dialogues sortent de Grégoire et Amédée, les petits sketchs qui ont donné lieu à des petites pièces de ce genre. Mais vous voyez, ça ne rend pas compte, par exemple, de la force d'une phrase comme « c'est des choses qui arrivent ». Ça veut dire « c'est des choses qui arrivent comme arrive le train en gare ». C'est-à-dire les objets choses, si je ne bafouille pas, sont là pour manifester leur pouvoir sur les individus. Donc là, il y a une qualification de Dubillard qui échappe. Et puis un troisième type de critique qui est d'essayer de combiner les deux. De dire qu'il y avait là un art magistral de dire les choses sans les dire. La misère de l'homme vient de ce qu'il ne peut ni vivre avec les semblables, ni vivre sans. Donc encore quelque chose d'existentiel. Et en même temps, il a un mot extrêmement intéressant, ce critique. Il dit qu'il invente le théâtre non figuratif. Le théâtre non figuratif, c'est-à-dire que c'est un théâtre où il n'y a pas de figure ressemblante, de personnage humanoïde, puisqu'il est non figuratif. Et ça, c'est très judicieux. Alors, il est temps de lire ce que Dubillard a écrit lui-même sur ce qu'il attend du théâtre. Et c'est une page qui date de 59, donc l'année qui précède de deux ans avant la mise en scène de Henri Viandet. Et c'est dans les carnets en marge, c'est à la page 580. On évolue d'un art spontané, populaire, bachique, puéril, émotionnel, public, etc., vers un art solitaire ou du moins secret, qui n'a besoin ni du vin, ni des autres, qui se contente de cet autre que l'on est pour soi-même. Tout est là. Qui se contente de cet autre que l'on est pour soi-même. De cet autre qui reste quand tout le monde est parti. Il semble que le théâtre ne puisse progresser que vers son anéantissement. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant. C'est la liquidation du théâtre au nom de quelque chose d'autre qui n'est pas encore tout à fait né et auquel il participe naturellement à cette naissance. Et il ajoute, il semble que le théâtre ne puisse progresser que vers son anéantissement. Le bon théâtre se veut le moins théâtral possible. Le théâtre de Mallarmé, Igitur, Wigitur, drame, non que ce ne soit pas du théâtre, mais ce n'est plus du théâtre. De ce point de vue, il faut donc qu'une pièce soit mauvaise pour être bonne. Donc il y a un parti extrêmement audacieux de solitude d'enfoncer dans le désert de telle sorte qu'il puisse naître un nouveau théâtre. Alors, pour ce qui est de la leçon directe de la pensée, il n'y en a pas. Il ne veut pas qu'il y en ait. Et dans le programme, il se trouve qu'il y a une critique dans la revue Théâtre Populaire de l'année 1961 que j'ai. Le programme est formel. Et c'est entre guillemets, c'est Dubillard qui parle. La pièce de Dubillard, Naïf Zérondel, ouvrez les guillemets, ne nous renseignera pas sur une conception du théâtre que l'auteur aurait, il n'en a pas. Or, c'est faux, puisque justement, il en a une et il ne veut pas le dire. Et puis, en ce qui concerne le fond, comme on dit, alors le fond, c'est toujours Dubillard qui parle dans le programme, l'âge, les choses qui arrivent, et les choses qui arrivent sont mises en relief par Dubillard lui-même, les choses qui arrivent, la difficulté de penser ou de faire plusieurs choses à la fois, L'impossibilité de rester trois lorsqu'arrive un quatrième, entre parenthèses, 3 plus 1 égale 2 plus 1, 2. L'importance des repas réguliers, l'ivresse de faire des phrases, la gloire des larmes inutiles, les sournoiseries de l'argent, les choses qui se cassent. Alors naturellement, le critique dit, ben oui, mais alors là, c'est la négation du théâtre. Autrement dit, il met le doigt sur la vérité, mais il met le doigt sur une vérité qu'il refuse, le critique, en disant, ben, ce n'est plus du théâtre. La fameuse notion, vous savez, c'était le grand débat à l'époque, c'est du théâtre ou ce n'est pas du théâtre. À l'époque, n'oubliez pas, le théâtre est brechtien. Oui, il n'est rien. Et vous savez que aussi bien Beckett que Ionesco, que Dubillard, que Metgarten, que Genet sont considérés comme des décadents, comme des esthètes. Genet y compris. Donc ça, c'est historique. Donc vous avez affaire à quelque chose ici qui ne peut donner, qui ne peut prêter qu'à malentendu. Et il a participé à ce malentendu. Donc dans ce sens, on peut dire que la critique se trompe, mais la critique ne pouvait pas ne pas se tromper. Il faudrait attendre l'année suivante avec la Maison d'Os pour que les choses se dévoilent, puisque dans la Maison d'Os, tout est axé sur un personnage, sur un acteur qui est Dubillard lui-même, et naturellement, les autres ne sont que des faire-valoir qu'il s'agit d'évincer pour rester dans la solitude totale du non-être, qui est quand même de l'être, et là on touche à la phénoménologie, je pense que là il y a toute une piste à explorer.
Bien, passer maintenant à la lecture.
Alors, on est à l'acte 3, et à l'acte 3, il n'y a plus que Fernand et Madame Sèvres, c'est-à-dire, il n'y a plus que tous les deux. Nous sommes tous les deux, et il y a une scène 1, ça arrive.
Donc nous sommes au moment où
oui,
c'est un vaisseau de photos.
C'est la scène où il est en train. Il a commencé. C'est pas tout à fait le début de la scène. Il a commencé la scène en train de photographier. Il a un appareil sur pied en train de photographier Mme Séverin qui est montée sur une chaise. Elle a un chapeau. Et comme elle essaye plusieurs chapeaux, Fernand se met un chapeau lui aussi de femme sur la tête. Donc ça fait, comme si vous voulez, une image un peu cocasse. Et là, on arrive là, Fernand et Mme Séverin, qui sont tous les deux merveilleux. Dommage qu'on n'ait pas la couleur.
Alors allez-y, prenez-moi.
Alors, allons-y, je vous prends, mais ne bougez plus.
Mais je ne bouge plus.
En photo, hein.
Quoi, en photo?
Je vous prends en photo, hein. Non, parce que vous me dites prenez-moi, alors je voudrais savoir.
Oh, écoutez, je vous en prie, Fernand, pas maintenant.
Bon, alors, souriez. Voilà. Attention, il y a un tout petit oiseau qui va sortir.
C'est le dernier.
C'est le dernier, un petit oiseau qui va sortir. C'est pas un petit oiseau qui est là-dedans. Mais il y a quelque chose qui se promène. Qu'est-ce que ça peut bien être?
Bon, ben, écoutez-moi.
Bougez pas, je vois ce que c'est.
Bougez pas, vous ne pensez pas à ma tarte.
Vous m'avez dit qu'elle était au four.
Mais parfaitement.
Eh bien alors, ne vous en faites pas pour elle cuit.
Oui, oh, je la connais. Elle ne cuira pas longtemps. Les tartes, quand elles trouvent qu'elles sont assez cuites, elles brûlent.
C'est une tarte à quoi, votre tarte?
Au fromage.
C'est pas eux qui arrivent?
Qui?
À motocyclette.
Mais non.
Ah non, ce n'est pas eux. Attendez, j'en ai pour une seconde. Faut que je dévisse la lentille. Quand je l'aurai dévissée, je la revisse. Et je suis à vous. Il y a une mouche dedans.
Une mouche? Au mois de janvier, il n'y a pas de mouche.
Ça doit être une mouche de l'été dernier qui se réveille. C'est des choses qui arrivent, ça. Une mouche qui se réveille, le temps de se réchauffer un petit peu.
Bon, ben, écrasez-la et puis...
Mais oui, je vais l'écraser. Tenez, la voilà. Vous verrez quand vous aurez son âge.
Moi?
Et alors? Vous voyez? Elle n'a même plus la force de s'envoler.
Je suis bien tranquille que je ne serai jamais comme ça.
On se rend pas compte.
D'abord, c'est peut-être une mouche de l'été prochain qui est en avance. Allez, revissez-la.
Qui?
Votre lentille.
Oui. Ils ne sont pas encore là. Donc, à ce moment-là, bien sûr, nous revenons sur quelque chose dont nous avons toujours parlé, il faudrait parler vraiment, qui est le comique.
Eh oui.
Et on n'a pas beaucoup de temps, d'ailleurs, pour dire...
Ah, le comique, il est bien sûr, à la fois traditionnel, novateur, c'est-à-dire qu'il y a trois langues. Il y a trois langues comiques qu'il utilise. Il y a la langue parlée, qui est toujours efficace, et puis il y a quelque chose qui est plus que la langue parlée, c'est ce que j'appelle la langue orale. Ça veut dire que vous avez en français quantité de mots-outils qui sont atones, normalement. On ne les entend pas, ils servent de support. Or, lui, il fait porter très souvent la tonique sur les mots-outils. C'est pourquoi il y a plein d'interjections, ben, ah, ou ça, etc., etc. Ça, c'est typiquement de billardien. Il y en a déjà, vous me direz, beaucoup chez Pedot, mais il y en a encore plus chez lui, comme étant simplement la phrase. Il y a le sens dans l'intonation seulement. C'est l'intonation qui fait le comique, et le comique, l'intonation, c'est parce qu'il y a évidemment Dubillard lui-même qui est un acteur extraordinaire. C'était un acteur à la fois génial, nonchalant, avec quelque chose de constamment ailleurs. Il était absent-présent. Il avait une force de présence dans son absence même. Un comique évidemment extrêmement fin et difficile à saisir. Et puis il y a un troisième ressort du comique, c'est ce que j'appelle la langue vocale, et c'est ça la langue vocale, c'est quand ça passe à travers l'organe de Dubillard lui-même. Alors, les quiproquos, on en a vu, les jeux de clowns, on en a vu, le comique de la surprise, évidemment, puisqu'il y a quantité d'objets qu'on amène, il y a les noix, il y a la porcelaine, et puis il y a les chutes, il y a les surprises de cette nature, et puis il y a aussi le comique de complicité, quand ils sont là en train de faire des allusions sexuelles à mots à peine couverts, et que le public, évidemment, comprend au quart de tour. Donc tout ça, ça rentre dans une catégorie à la fois traditionnelle du théâtre de boulevard et d'un théâtre nouveau, un théâtre original. Donc, il y a encore une phrase qui, à mon avis, est très intéressante pour ce qui est du ton général, une phrase de Dubillard qui est très courte mais très forte: jouer est un jeu. Jouer est un jeu. Bon, bah on va.
Il nous mène donc à la fin de la pièce.
Il nous mène à la fin de la pièce.
Que nous allons lire. Alors, jusqu'à la fin.
On est à la scène 5, qui est la dernière scène. En fait, c'est une scène 1 prolongée, puisqu'il n'y a que les deux mêmes personnages, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas eu d'événement. Alors, je suis Fernand et je suis en train de boire.
Voyons, 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 qu'est-ce qu'il y a, mon gros mignon, hein? Allez, on va tout dire à sa petite tantine, hein? On n'a pas le teint bien frais, il me semble. Et il est tout maigre, regardez-moi ça!
Attention à mon verre!
Dis donc, qu'est-ce que je dis? Tu bois trop! Il n'y a pas à y revenir! Et puis tu ne manges pas!
Je ne mange pas! Je ne mange pas tout le temps, non?
Écoute.
Oui?
Écoute, petit Fernand. Tu sais la tarte, la bonne tarte au fromage.
Oui?
Qu'est-ce que tu dirais si on commençait à la manger sans œufs?
La tarte au fromage.
Ah, tout de même, hein, ça nous intéresse un petit peu, ça, hein, mon mignon.
Je me fais mal aux genoux.
Embrasse-moi.
Je la coupe en combien? En deux?
Embrasse-moi d'abord.
Mon verre. Non, un petit bonhomme. Mais enfin, qu'est-ce que vous cherchez, hein? Qu'est-ce que vous voulez, quoi?
Tu vois?
Ah, et mon genou!
Bon, très bien. Faites plaisir aux gens.
Me faire plaisir? Je veux bien. Je veux bien votre tarte. C'est pour une raison pour me déboîter le genou. Alors, ça coupe en deux?
Ah non, tout de même. Faut leur en laisser un petit bout s'ils arrivent.
Oh là là, vous! En tout cas, moi, je sais ce que je vais faire. Tiens, tout ça, c'est plus de notre âge.
Plus de notre âge? Si Germaine était là, je suis sûre que vous ne diriez pas que ce n'est pas de votre âge.
Parce que c'est de son âge! Et puis finissons-en avec votre tarte, parce que s'ils ne viennent pas, moi, je vais me remettre à mon truc.
Mais oui, laissez-moi tomber.
Tiens! La mouche qui revient. Ah, alors, on a senti le fromage, hein? Regardez-la si elle comprend.
Mais oui, une mouche.
Oh, bien sûr, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une mouche, hein? On est tellement plus intelligent, on a tellement des choses plus intéressantes, plus importantes dans la tête.
Oh, ça, vous parlez pour vous, Fernand. Si vous saviez à quel point je me sens bête et petite.
Allons.
Mais moi, Fernand, cette mouche, je la rencontrerai dans la rue. C'est moi qui lui dirai bonjour la première.
Pas par là, pas par là.
Seulement, si j'ai encore le courage de faire une taffe le dimanche après-midi et que je vois qu'il n'y a qu'une mouche qui s'y intéresse, moi, ça me rend triste.
Une mouche et moi, quand même.
Encore, si j'étais sûre qu'elle sera bonne, ma tarte.
Mais oui, mais oui. Tenez.
Elle est mangeable?
Goûtez.
Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, il y a sûrement du fromage dans votre tarte. Mais il y a sûrement aussi du savon.
Du savon? Deux gros morceaux de gruyère, Jimmy.
Un morceau de gruyère, oui. Et puis le morceau de savon qui était dans le placard à côté du gruyère. C'est de ma faute. Ring, ring, ring.
Ah, je croyais que vous aviez trouvé un acheteur pour tout ça.
Oui, mais finalement, il n'a pas voulu.
Elle marche bien pourtant.
Oui, mais pas à la même vitesse.
Presque.
Et puis c'était un collectionneur. C'est pas des horloges de collection.
Faudrait tout de même nous débarrasser de ça. Le hamac, moi, je m'en servirais bien. Fernand a ouvert les paravents derrière lesquels il a pris un vase de porcelaine énorme, informe et inachevé.
À nous deux, maintenant.
Ah, il n'est pas encore cassé?
Commence à être beau, hein?
Et il va monter comme ça jusqu'où, votre vase?
Je ne sais pas. Naïves hirondelles, portez mes bleus vers elles.
Naïves hirondelles, portez mes bleus vers elles. Mes baisers sont des vers luisants, portez-les-lui. Portez-lui-en, puisque je l'aime. Et qu'elle est belle. L'hiver a corni les fleurs, et dans ses pinces les pervenches se sont fanées sur leur tuteur. Mais malgré tant de gelées blanches, il n'a pu sur mon triste cœur geler les larmes ni les pleurs. Naïves hirondelles, portez mes vœux vers elles, mes baisers sont des vers luisants. Portez-les-lui, portez-lui-en, puisque je l'aime.